rediffusion d'une émission de Principe Actif. Une rediff, quoi.
Un invité, une playlist, un mercredi soir sur deux, 20h, 21h, pour deux pistes et sur Principe Actif.
Bonsoir et bienvenue dans cette première émission de l'année scolaire. Mon invitée de ce soir s'appelle Agnès Guéraud. Elle est philosophe, journaliste et officie en tant que musicienne sous le pseudonyme de La Féline ou en duo avec Mondkopf sous le nom de Grieve. Parmi ses nombreux travaux, on lui doit aussi un ouvrage de plus de 500 pages sur la dialectique de la pop. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas faire? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est à mes côtés ce soir et pour une heure et j'en suis très heureux. Bonsoir Agnès.
Bonsoir.
Bonsoir et merci d'avoir accepté le micro tendu d'émission Tour de Piste. En ce début d'émission, je vais interroger la philosophe qui a rédigé un essai de plus de 500 pages sur la dialectique de la pop. Quel était le point de départ de l'écriture de ce livre ?
Eh ben, c'est la pratique de la musique, figure-toi, au fond. Parce que c'est le fait depuis toute petite de faire des chansons. J'ai fait des chansons depuis que je suis toute petite, toutes sans avoir fait de conservatoire ou quoi. La musique a été présente très tôt dans ma vie comme un besoin, pas simplement en tant qu'auditrice, mais en tant que quelqu'un qui a envie de faire une chanson et de chanter, quoi. Donc comme moyen d'expression aussi. Et voilà, j'ai fait ensuite des études de philo. Il se trouve que j'ai travaillé sur ce philosophe qui s'appelait Adorno. Et j'ai fait une thèse et tout. Et puis pendant tout ce temps-là de la thèse, qui était un peu sur un autre sujet, hein, c'était pas sur la musique, c'était sur la critique de la subjectivité. J'ai vécu un peu, j'ai découvert qu'Adorno avait écrit beaucoup sur la musique. Un peu de manière assez critique, presque embarrassante sur le jazz, mais aussi un peu sur les musiques populaires, ce que je pratiquais, puisque j'avais mon groupe déjà, La Féline. Et en fait, je vivais un peu ça comme une espèce de schizophrénie, de me dire, mais en fait, je travaille sur un philosophe qui méprise ce que je fais en tant qu'artiste, en tant que musicienne, enfin, en tout cas, qui a un discours comme ça extrêmement critique. Et en même temps, voilà, en tant que musicienne, je rencontrais plein de gens qui avaient aussi ce discours critique. Et si tu veux, c'est vraiment la dialectique de la pop, c'est venu comme un essai de compréhension de cette tension, en fait, cette tension-là entre la pensée élaborée, philosophique, critique, et son incompréhension, quand même, depuis des décennies, de la musique populaire, quoi. Que je pratiquais, et moi je vivais les deux choses, j'avais à la fois ce rapport à une pensée discursive et en même temps à cette expressivité de composer des chansons et tout ça, et donc c'est vraiment la musicienne, tu vois, qui a un peu tiré le t-shirt de la théoricienne en disant mais dis-leur quoi que tout ça a beaucoup de sens en réalité et que ça se laisse penser. Pourquoi? Pas parce qu'on est plus intelligent que cet objet, mais parce que cet objet se pense, cet objet a une histoire, la musique populaire enregistrée a une histoire, les musiciens pensent, ils se posent des questions d'authenticité que pose Adorno dans d'autres domaines musicaux, ils se posent des questions de contradiction, ils se posent des questions de forme, et voilà, c'est donc, ça vient d'une... Je dois reconnaître que je l'ai un peu pris comme une mission, en fait, ce livre, à un moment de me dire, en fait, je suis à cet endroit, j'ai lu ces mecs, je fais cette musique, à un moment, faut que j'explique aux uns et aux autres ce que j'ai pu comprendre.
T'as réparé quelque chose.
Ouais, y a, et peut-être pour moi-même aussi, parce que effectivement, j'ai cessé de voir la chose, de le vivre comme une schizophrénie. Tu vois, j'allais voir mon directeur de thèse avec ma guitare électrique sur le dos, parce qu'après, je répétais. Et lui, pendant 5 ans, il a cru que c'était un violoncelle, une viole de gambe, enfin, tous les instruments, tu vois, autorisés, mais alors c'était jamais possible que je sois une musicienne de pop rock, quoi.
Je vais encore te poser une question qui mériterait une réponse d'une heure. Qu'est-ce que la musique pop peut offrir que la musique dite classique ne peut pas offrir?
Je pense pas qu'il faut faire... Alors, je dirais que je fais une différence, effectivement, comme je dis que la pop, au sens de musique populaire enregistrée, a créé ce que j'appelle un art distinct dans le livre, c'est-à-dire faut arriver à penser cet art avec son propre paradigme, et qui n'est pas tout à fait exactement comparable sur les mêmes termes à par exemple ce qui s'est passé avec la musique savante occidentale écrite sur partition à partir du XVIIe siècle en Occident. Donc je dirais que mon idée, c'est de penser en effet des différences d'art, mais par contre, music is music, comme dit comme a dit Berg. D'ailleurs, je cite ça au début de Dialectique de la pop à Gershwin. Donc c'est-à-dire que évidemment que dans toutes les musiques, il y a pas de frontière, tu vois, en disant oui, ça c'est pas de la pop. Justement, mon idée, c'est de dire que la frontière qui va être créée en termes d'art, en termes de différenciation d'art, elle est créée par le médium qui est l'enregistrement. De fait, une musique qui est enregistrée, qu'est-ce qu'elle, justement, effectivement, elle va permettre, que la musique savante n'a pas tout à fait permis, en tout cas, eh bien, elle va permettre de fixer la création et la voix de gens qui ne savent pas nécessairement écrire la musique et qui ne savent pas nécessairement chanter de manière opératique ou quoi. Donc elle va accueillir, la musique populaire enregistrée, elle ouvre le royaume de l'art, c'est-à-dire que toute cette musique populaire qui pouvait être interprétée par des très bons chanteurs qui existent depuis des millénaires, il n'y a aucun souci, elle a pas pu jusque-là être fixée. Alors on a des textes, mais on a très peu de fixation de mélodie avant le 19e siècle, on ne sait pas en fait. Et donc la pop, elle va permettre de fixer et de faire qu'on va esthétiquement se rapporter vraiment à un enregistrement. On écoute un vieux blues, on entend la voix du bluesman, toutes ces petites subtilités de la manière de chanter, tout ça influence notre expérience esthétique. Et ça, c'est pas possible avant l'enregistrement. Donc l'enregistrement, il accueille tout à coup des voix qui ne sont pas forcément des voix opératiques. Il ne faut pas forcément besoin d'être un contralto, machin. Enfin, savoir, il va accueillir des voix très très graves ou des voix même un peu fausses. Donc, ça va être un médium beaucoup moins discriminant. Hein, même on peut enregistrer des aboiements de chiens, il n'y a pas de souci. Il y a des morceaux de pop avec des aboiements de chiens. Donc, l'enregistrement, il ouvre grand la possibilité sonore de l'expression vocale, qui est beaucoup plus structurée et déterminée, forcément dans une musique écrite, où quand il y a écrit un la, il faut chanter un la, tu vois. Quand il y a écrit, il faut chanter la manière dont il faut le chanter. Non, en pop, il y a ces normes-là. Il y a des normes qui se recréent par ailleurs via l'enregistrement, mais ces normes-là, elles sont, a priori, on n'est pas obligé de respecter, tu vois, une voix de ténor. Par exemple, Edith Piaf, tu vois, elle chante les aigus en voix de poitrine. Tu vois, c'est un truc, à l'opéra, ça se fait pas. Enfin, si tu passes en aigu, tu passes en voix de tête. Donc, il y a tout un monde de chanteurs et de voix, en effet, non nécessairement instruites, non nécessairement érudites, non nécessairement éduquées, qui se sont retrouvées conviées au royaume de l'expressivité musicale. Et de manière fixée, c'est-à-dire avec des œuvres fixées qu'on peut réécouter aujourd'hui telles qu'elles ont été interprétées. Donc je dirais que c'est ça la différence, pour moi en tout cas, pour répondre à ta question, que permet la musique populaire, que ne permet pas nécessairement la musique savante. Il y a clairement cette question des voix et d'une liberté dans le spectre possible des interprétations. Et ça, c'est comme si tu ouvrais la porte, t'as un royaume jusque-là qui est tout étroit, et puis tout à coup tu ouvres les vannes, et puis ouf, tu vois, c'est l'humanité entière qui s'engouffre, quoi, à tous les âges de la vie.
Adorno va s'inviter dans l'émission, tu parlais d'enregistrement tout à l'heure, on va l'écouter une vingtaine de secondes.
L'industrie culturelle, c'est l'intégration délibérée d'en haut de ses consommateurs. Elle intègre de force même les domaines séparés depuis des millénaires de l'art supérieur et de l'art inférieur, au préjudice des deux.
Si tu te retrouvais face à Adorno, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Déjà, je serais en galère parce que il parlait français un petit peu. Enfin, il y a un texte de lui en français, mais je pense pas qu'il parlait, mais il avait transcrit. Donc bon, déjà, on aurait. Mais si je me retrouvais face à Adorno, je lui dirais, écoutez, je merci pour cette pensée qui est quand même extrêmement forte et qui moi m'a forgé. Hein, même si dans le livre, j'en fais à la fois un hater hyperbolique de la pop et un allié objectif, parce que je pense que justement, il montre que le verre et dans le fruit, et que pour penser profondément cette musique, il faut arriver à penser son rapport à ses contradictions. Et c'est quasiment ça la clé. C'est pour ça que ça s'appelle dialectique de la pop, parce que la dialectique, c'est la pensée des contradictions. Et donc l'ennemi, hein, celui qui va dire « Ah ouais, mais non, mais c'est, enfin, ouais, c'est complètement pris dans l'industrie culturelle, de toute manière, il n'y a pas d'issue et tout ça », en fait, ça, c'est cet ennemi-là, il est intérieur. Il y a plein de musiciens de pop qui ressentent ça, ce fait que les faux tubes, la sensation du matraquage, tout ça, ça révolte aussi des gens qui aiment la pop. Donc Adorno, c'est un allié subjectif de ce point de vue-là. Et donc voilà, si j'ai en face de lui, je dirais qu'il m'a donné des outils de pensée, et puis peut-être que s'il est sympa, je lui expliquerai ce que j'ai fait de lui dans Dialectique de la pop.
Quels sont pour toi les plus grands moments d'inventivité pour la pop ?
À mon avis, il y a l'échelle individuelle, parce que vraiment c'est là que l'enregistrement, il accueille, tu vois, entre la voix de je sais pas, Woody Guthrie, et la voix de Brian Wilson, et la voix de je sais pas comment s'appelle-t-elle, enfin, ou je sais pas, Caroline Polachek, tu vois, je veux dire les voix, déjà ça, à chaque fois, le simple fait d'un individu qui a une voix, pour moi c'est une première occasion de créativité, au sens où c'est des singularités à chaque fois. Ensuite, bien sûr, t'as l'histoire des instruments, c'est clair que d'ailleurs, on a vécu une espèce de sensation un peu de fin de l'histoire, tu vois, dans les années 90, parce qu'en fait, on n'avait pas de nouvel instrument. C'est l'ordinateur, le nouvel instrument. Mais quand les guitares électriques arrivent, tu vois, dans les années 40, c'est normal, évidemment, que ça change tout. Enfin, les basses aussi électriques. Donc, l'électrification, c'est clair que ça décuple les capacités, ces moments d'inventivité, les synthés modulaires, puis justement analogiques, tu vois, individualisés, avec des claviers, parce qu'au départ, les synthés, c'est pas un clavier, un synthé, hein, c'est un panneau avec des connectiques, une connectique compliquée. Donc, l'histoire de ce qu'on appelle l'instrumentarium, ça crée des moments d'inventivité. L'insingularité crée des moments d'inventivité. Et aujourd'hui, je dirais que ce qui est difficile à appréhender, c'est que je pense qu'il y en a toujours autant, des moments d'inventivité. Mais qu'en revanche, on n'a pas cette espèce de méta-récit où, tu vois, très américano-centré, où le King, c'est Elvis, puis c'est Michael Jackson, puis Tina Turner. Enfin, tu vois, aujourd'hui, il n'y a plus de roi de la pop ou de reine de la pop, même Beyoncé. Enfin, c'est pas du tout la seule représentante de ce qui se passe, même Taylor Swift, tu vois. En fait, on est beaucoup plus conscient de la multiplicité des possibles. Mais à mon sens, c'est ça le moment d'inventivité, c'est justement être dans un rapport un peu moins triangulaire de stars éloignées et uniques, même si c'est toujours le cas, hein, c'est toujours ça qui se passe sur le plan du capital et de l'économie de la pop, hein, y a toujours les inégalités se renforcent. Mais au sens de, quand t'es amateur, je pense que t'es plutôt conscient qu'il n'y a plus vraiment un seul maître ou une seule maîtresse de ce jeu, et qu'il faut être attentif, au contraire, aux marges. Enfin, ça, il a toujours fallu être attentif aux marges. Je pense qu'il faut continuer, mais les marges du présent, les marges du passé, les marges du futur, quoi.
Et on va ouvrir la programmation, parce qu'on écoute aussi de la musique dans l'émission Tour de Piste, hein, ça devait finir par arriver, avec le musicien, je ne connaissais pas du tout, Acostis. Le titre que tu as choisi, c'est Cake Ena Scolio.
Alors, j'ai choisi parce que donc c'est un titre qui se retrouve sur une compilation qui s'appelle The Secret Museum of Mankind, donc le musée secret de l'humanité. Et c'est une compilation de musique, on va dire, ethnique des années, à partir des fin des années 20, qui a été faite par un collectionneur américain qui s'appelle Pat Conte. Et donc, j'avais découvert ce morceau, dans cette compile qui a été faite, dans les années 90. Donc, il a l'air de dater des années 30. Et donc, morceau, enfin, la mélodie est géniale, cette espèce de guitare qui joue tout seul, hein, donc vous avez à la fois une basse et un picking complexe et tout passionnant. Et Donc j'ai des amis grecs qui m'ont traduit. En fait, c'est un chant très apocalyptique. Hein. Il dit tout brûle. Alors il énumère tous les trucs qui brûlent. Et en fait, ils m'ont expliqué. Et c'est passionnant parce que donc ça apparaît comme un truc de musique ethnique, tu vois, donc rébético grec. Et en réalité, donc ce Acostis, c'est un pseudonyme. Il s'appelait Bezos, comme Jeff Bezos, Constantino Bezos et Constantini, je sais plus. Bezos et ce Constantin Bezos, en fait, il a été encouragé par un collectionneur américain à jouer comme ça, alors que lui, au départ, c'était un type qui jouait de la guitare hawaïenne. Et donc, il fait quasiment, c'est comme s'il feintait un truc trad, alors qu'en fait, lui, il l'est déjà plus. Et c'est tout ça, c'est vraiment l'histoire de la musique populaire enregistrée, c'est cette espèce de fascination pour un passé révolu et où on va comme ça essayer de retrouver des racines sonores. Il y a un côté très byzantin, hein, comme ils disent dans ce morceau aussi, la basse comme ça continue, quelque chose de très oriental. Donc, et tout ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est pas que une expression, c'est pas du tout une expression du peuple, tu vois. C'est un fantasme de quelque chose d'authentique, de sans filtre, de profond, déjà à l'époque. Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, c'est génial, mais c'est déjà dialectique, quoi.
Κι ο Σαγγελέας που τα τσιπτεί στις παρακολουθείς παρέας, ρε που ήταν τσίφτης της παρέας.
Acostis avec le titre
Kaike et Nascolio.
Merci Agnès. Très belle chanson de l'entre-deux-guerres pour ouvrir cette programmation donc avec Agnès Guéraud. Comment l'industrie du disque a modifié le paysage musical ?
Un des points qui était important pour moi dans Dialectique de la Pop aussi, c'était de bien montrer que l'industrie du disque, c'est pas un truc qui date des années 50, parce que il y a des théoriciens, tu vois, qui ont défendu l'idée que le rock naît avec Elvis en 56, quoi. Tu te dis, bah non, en fait, la musique populaire enregistrée, en tout cas, dès la fin des années 1900, t'as la Deutsche Grammophon qui va en Égypte, partout à Smyrne, enregistrer des gens, en Espagne, enregistrer du flamenco. Donc, ça, c'est vraiment lié à l'apparition de la technique d'enregistrement. Et la technique d'enregistrement, la technique phonographique, c'est quelque chose qui est lié à la guerre. Parce que la radio se développe aussi avec les besoins de l'armée et qui est immédiatement quelque chose d'industriel, si tu veux, puisque le principe, c'est justement d'enregistrer des choses pour pouvoir les répliquer et les faire circuler au plus large. Donc on est déjà dans une logique, en tout cas, de productivité. Alors faut les premiers cylindres, hein, parce qu'on enregistrait au départ sur cylindre, il fallait faire un enregistrement par cylindre. Il y a un chanteur français qui s'appelait Charlus, et lui, donc, il diffusait sa musique comme ça en faisant... Mais du coup, il a chanté 300 fois sa chanson, mais pour pouvoir ensuite l'envoyer. Et on a voilà, progressivement trouvé des techniques de galvanoplastie et tout ça, qu'on fait qu'il a suffi, on a pu dupliquer un enregistrement fait une fois. Donc un enregistrement unique fait, voilà, démultiplié à l'infini, comme on le vit aujourd'hui, même finalement avec le MP3. Il y a un enregistrement, mais finalement, il y a des milliers, des millions de MP3 qui circulent dans le monde. C'est à la fois le même et il n'utilise pas matériellement le même nombre. Enfin, il utilise des bits sur chaque ordinateur différent, quoi. Donc les supports vont se démultiplier et ça, cette logique qui est une logique de diffusion de masse, hein, elle est enclenchée très tôt. En fait, tu as déjà des labels dans les années 20 en Amérique, des labels de old times music. Donc, tu as vraiment quelque chose de l'ordre d'une industrie musicale qui est en train de naître. Tu as aussi la Tin Pan Alley, où là, par exemple, ce qui est industriel, enfin, on imprime, hein, à la chaîne les partitions des chansons. Donc, tu vois, c'est à la fois lié à l'enregistrement et à ce fait que, voilà, l'imprimerie, donc la possibilité d'imprimer les partitions, va permettre aux gens d'accéder en masse, de rendre diffusable en masse quelque chose qui, donc on pouvait expérimenter que hic et nunc, ici et maintenant. Et voilà, et dans cette ubiquité, l'industrie s'engouffre, puisque c'est elle qui va être en mesure d'offrir cette puissance de diffusion.
Elle est compatible pour toi, la démarche industrielle, avec la démarche artistique ?
Elle est compatible, mais elle est contradictoire. C'est-à-dire que elle est compatible en étant contradictoire. C'est-à-dire, c'est une idée qui est aussi au fond de Dialectique de la Pop, hein, c'est que c'est indubitablement une condition de l'épanouissement de cette musique que le fait qu'elle ait été largement diffusée et industrialisée, et qu'en même temps, à chaque fois que quelqu'un a voulu justement lutter contre sa normalisation, il a aussi fait avancer l'histoire de cette musique. Donc là, on revient à cette idée que c'est dialectique.
Alors, en poursuivant en musique avec le projet Grive, soit toi et Paul Régimbaud, alias Mondkoff, t'as choisi le titre How Many Years. Elle est venue comment, cette chanson ?
How Many Years, du coup, c'est une impro, hein, comme toutes les chansons de Grive au départ. On l'a créé, donc c'est un peu un climat sonore comme ça qui est sorti du synthé de Paul. Et puis, moi, j'ai commencé à chanter, à faire cette mélodie, et en fait, elle parle des réseaux sociaux et avec écœurement, on va dire. en disant, voilà, combien, ça veut dire combien d'années will it take us to destroy you, combien d'années ça va nous prendre à vous détruire, quoi. Et c'est vraiment sur ce sentiment de mondialisation, de globalisation, de normalisation. Et voilà, pour moi, je vais pas le dire comme ça, je vais pas le dire comme une philosophe dans la chanson. Donc dans la chanson, je dis plutôt fuck emojis, parce que c'est une manière de dire que ce monde de la communication qui est devenu comme ça tout étriqué, tout systématique, m'épuise un peu. Mais voilà, c'est là-dessus. Et donc c'est marrant parce que je pense que les gens, Talitre, enfin le Sean de notre label, hein, qui est le chef du label Talitre, c'est une des chansons qu'il aime le plus de Grieve. Et je pense que quand il écoute la chanson, il projette pas du tout ça. Voilà. Et quand on a fait le clip, c'était chouette parce que voilà, on a trouvé cette chienne trop mignonne et qui est dit exactement. Je trouve que je pouvais pas moi apparaître et chanter ça. Je trouve que elle dit qu'il y a quelque chose dehors. Et à la fois en dehors de l'humanité, en dehors de notre mode de communication, en dehors d'Internet. Et pour moi, il a beaucoup de sens ce clip avec cette chanson.
Écoutez un deuxième titre de Grieve pour cette émission, et il est lui aussi extrait de Tales of Uncertainty. J'ai un accent catastrophique.
Ouais, je l'ai mis parce qu'il contraste bien avec How Many Years en termes d'énergie, et que c'est un peu l'idée du projet Grieve, hein, c'est vraiment cette dynamique de pouvoir être dans des moments complètement suspendus et puis tout à coup envoyer le mur du son. Et je pense qu'on a vraiment un vrai plaisir assez enfantin, je dois dire, avec Paul à faire ça dans Grieve. Et voilà, ce morceau, il y a beaucoup de morceaux de Grieve qui parlent de dimension élémentaire, tu vois. Il y a un morceau qui s'appelle Mine de charbon, où il y a des rêves, on est souvent dans de la matière comme ça, un peu épaisse, et là c'est des sables mouvants. Donc voilà, on s'enfonce dans les sables mouvants, et pour faire le texte du début, je me suis inspirée, j'ai regardé la notice Wikipédia qui explique ce que faut-il faire si vous tombez sur des sables mouvants.
As the sun let down